Carnet de Marseille. Marseille.
Je tourne la page de l'activité quotidienne parce que ça commence à peser un petit peu, quoi. L'âge venant, on n'a plus les mêmes réflexes, parfois même le même recul que peuvent avoir les jeunes sur des événements, parce qu'on est tellement imbriqué, on a tellement pris part à certains événements que peut-être l'esprit critique peut s'émousser quelque peu, mais, y compris la vigilance. Enfin, on risque de perdre en réflexe. Je ne veux pas faire le match de trop, quoi.
L'homme qui ne veut surtout pas faire le match de trop est l'un des grands noms du journalisme marseillais, homme de culture, de cœur et de conviction. Il s'appelle Jean-Paul Delhomme, chef des sports du quotidien communiste La Marseillaise jusqu'au 31 décembre dernier. Le voilà désormais retraité, ce qui veut dire qu'une vraie grande page du journalisme phocéen vient de se tourner. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Tchatchcast, le podcast d'un Marseillais exilé, aujourd'hui consacré à Monsieur Jean-Paul Delhomme. Ça part de là.
Marseille.
C'est un journal quand même qui a formé pratiquement tous les cadres de la presse marseillaise parce que beaucoup ont commencé leur carrière ici à la Marseillaise et vont après dans d'autres journaux. Je retrouve souvent dans ma vie professionnelle des gens qui me disent « Moi j'ai commencé à la Marseillaise, ou j'ai été stagiaire à la Marseillaise. » C'est là qu'on m'a appris le métier. Parce que bon, c'est une grande école de journalisme ici. On ne passait pas, du moins, de mon temps par les grandes écoles de journalisme. Mais on apprenait ici sur le tas. On avait des anciens qui nous transmettaient le savoir. Moi, j'ai commencé avec le plomb et je m'en vais avec l'ordinateur. Et j'ai traversé toutes ces époques et j'avoue que c'est une formidable école marseillaise.
C'est vrai, formidable école que ce journal fondé à la Libération, avec un titre blanc et bleu et des convictions tout en rouge, puisque quotidien communiste.
Oui, c'est son originalité, c'est sa fierté aussi. Il n'a cessé de mener et continue à mener des combats quand même pour le progrès social. C'est un journal qui est antiraciste, qui se bat pour que les gens aient un avenir meilleur et pour débattre de tout ce qui se fait dans notre société. C'est un journal qui s'ouvre de plus en plus parce que la vie a fait évoluer, y compris les idées, et tout en gardant son fond, tout en gardant ses idées de base, il reste ouvert à tout ce qui intéresse la marche, le monde en général, le pays aussi, et la région en particulier, puisqu'il apporte sa voix originale tous les matins concernant tous les faits de l'actualité, les faits sociaux, les faits de société, les faits sportifs. C'est d'abord un journal qui colle à l'actualité de sa région. Parce qu'on dit toujours, c'est un journal communiste, comme si on voulait lui faire porter une étoile rouge. Et je crois qu'on ne dit pas d'un journal, je citerai des confrères, par exemple le Figaro, on ne dit pas tiens, c'est un journal de droite. On dit c'est un journal. La Marseillaise aussi, c'est un journal. C'est un journal comme les autres. Après, il défend, il a son originalité. Il gagne en audience actuellement, bien que ce soit très difficile pour la presse et la presse quotidienne régionale en particulier. Et il gagne en audience après avoir renouvelé sa formule qui est une formule justement qui appelle au débat. Ce n'est pas un journal fermé, ce n'est pas un journal comme où on voudrait l'enfermer dans un schéma communiste père, etc. Alors que le journal... Non, non, c'est un journal qui, je vous assure, qui, il s'agit de le lire tous les matins, qui est arrivé à aller au-delà d'un certain électorat, et donc l'électorat purement communiste, qui quand même, à Marseille, se maintient quand même malgré ce qui se passe au niveau national.
Parmi les personnalités qui sont passées par la Marseillaise et qu'a donc côtoyé Jean-Paul Delhomme, le regretté Jean-Claude Izot, écrivain, poète marseillais, Iso créateur, entre autres, du personnage de Fabio Montale et le commissaire de police libertaire au cœur tendre.
Il est aussi arrivé à la rédaction régionale quand il est arrivé ici. Il suivait la chronique de Foss. Il y avait, alors que Foss était un chantier, ça devait être l'Eldorado de la Méditerranée. Quand les aciéries de Lorraine ont fermé, on a dit tout le monde à Foss, vous allez voir, ça va être magnifique. Bon, on le voit aujourd'hui, c'est un peu moins magnifique que prévu. Et qu'à l'époque de ce chantier, Jean-Claude Iso allait suivre l'actualité de Foss. On faisait à l'époque une demi-page sur Foss tous les jours, avec ses écrits qu'on peut retrouver dans les archives. Il a commencé là, il a été ensuite rédacteur en chef adjoint de la Marseillaise. C'était lui aussi un homme très cultivé, très proche des préoccupations des gens. Il adorait aller au piano, là, pas loin d'ici, et voir vivre les gens. Il nouait beaucoup d'amitié avec les petites gens dont il a si bien décrit après la condition. Puis après, il est parti, il a fait sa vie d'écrivain, de poète, et il nous a livré une œuvre qui est assez magnifique. Et il a sorti notamment ses romans policiers sur Marseille, qui sont des chefs-d'œuvre où je retrouvais dans ses traces un peu mon enfance au panier, les copains au piano. Bon, j'ai retrouvé toute cette atmosphère.
Il manque aujourd'hui à Marseille, hein, indiscutablement, Jean-Claude Iso.
Et oui, il manque parce que ça fait partie de ces pans de la mémoire et du cœur de Marseille. Ce sont des gens qui arrivaient à parler de Marseille autrement qu'à travers des vendeurs de poissons, des buveurs de Ricard ou des joueurs de pétanque, bien que ça existe tout ça. Mais enfin, c'est pas l'image, c'est pas que ça, Marseille. Marseille, c'est aussi des gens qui se lèvent tous les matins pour aller travailler, des gens qui souffrent. Des gens heureux aussi, il y a aussi des gens heureux qui ont des petits bonheurs par-ci, par-là. C'est une vie complète. Et puis c'est un formidable camailleux, Marseille. Il y a toutes les couleurs, il y a toutes les odeurs, il y a tous les accents. Et ça, Jean-Claude Iso l'avait bien cerné et surtout il a bien su le retranscrire à travers son filtre poétique. Parce que c'était un poète aussi, c'était un écrivain, puis un poète. Il était un peu dans son monde à lui. Mais quand il en sortait pour nous transcrire quelque chose, c'était toujours bon.
Autre plume passée par le quotidien La Marseillaise, un homme dont peu savent qu'il fut un brillant journaliste sportif, Pape Diouf, l'actuel président de l'OM.
Pape Diouf, il a débuté, il était à l'époque au PTT. Et c'est un pigiste de La Marseillaise qui s'appelle Tony Salvatori, qui était à l'époque champion du monde de plongée sous-marine et qui travaillait comme pigiste du basket à La Marseillaise, qui a présenté Pape Diouf au chef de service de l'époque, qui était Pierre Andréis. Il lui a dit, voilà un jeune qui est doué pour l'écriture et on pourrait peut-être utiliser ses compétences pour la chronique de basket. Pape Diouf a commencé par faire du basket à La Marseillaise. Et puis on s'est aperçu au fil des semaines, dans les discussions, qu'il connaissait parfaitement bien le football, que c'était un adepte du football ouvert. Son maître à penser, c'est François Thébault qui à l'époque était le miroir du football. Et comme Pape Diouf a des racines africaines, là-bas au Sénégal, on lisait beaucoup le miroir du football. Et il a appris, il le dit lui-même, j'ai un peu appris à lire en lisant le miroir du football. Et il avait épousé les idées de François Thébault. Et on s'est aperçu donc qu'il connaissait parfaitement son sujet. Pierre Andréis lui a confié quelques chroniques de football. Et de fil en aiguille, il est arrivé à suivre l'Olympique de Marseille. Il a suivi toute l'épopée des Minots. Et j'ai pris sa suite dans les années 85, 86, quand il est parti. Moi, j'étais depuis 1971, je faisais quelques piges avec l'OM, on faisait les vestiaires, tout ça, je collaborais. Mais là, j'ai pris totalement son flambeau quand il est parti en 86. Et après, il est parti à Sport. Il a travaillé dans plusieurs journaux, dans un hebdomadaire ensuite à Marseille. Et puis, il a tourné la page de la presse, il est devenu agent de joueur. Puis aujourd'hui, il est président de l'OM, mais il n'oublie jamais qu'il a démarré à la Marseillaise. Et chaque fois, il fait référence à ce journal, ce qui est un signe de son honnêteté qui est foncière. Du moins, je le crois, parce que je l'ai beaucoup côtoyé.
Il écrivait bien, il paraît qu'il avait une plume.
Il a toujours une plume formidable. Il manie l'imparfait subjonctif comme un académicien français, il s'exprime bien, oui, c'est un homme très cultivé, il lit beaucoup, il essaye de lire 2 livres par semaine, nous dit-il, c'est énorme, c'est un passionné de lecture, c'est un homme qui est toujours en train de chercher à se cultiver. Bon, il a quelques parenthèses en son nom avec l'OM, parce que ça doit un peu ça prend son nom, mais il essaye toujours, et on le voit dans les discussions, on voit qu'il essaye toujours de se placer sur les sommets. Il va jamais vers le bas. Il va toujours vers le haut. C'est un homme, je vous dis, d'une intégrité intellectuelle sans faille, qui est très cultivé et qui ne cherche pas à l'étaler devant ses devant ses auditeurs ou de ses interlocuteurs. Il est resté quand même modeste, bien qu'il ait sa fierté. Et c'est un homme que j'adore, avec qui j'adore échanger, même si on n'est pas d'accord des fois, mais c'est un homme avec qui j'adore échanger des idées.
Jean-Paul Delhomme fut l'un des journalistes marseillais les plus au fait de l'actualité de l'OM, cet Olympique de Marseille dont il a couvert tous les hauts et tous les bas au cours des 4 dernières décennies. L'OM numéro 1 des clubs français en termes de popularité, en termes d'afición, comme le disent les Espagnols.
C'est pas un cliché, c'est un mythe. C'est un mythe. On peut aller dans n'importe quel endroit du monde, on trouvera toujours quelqu'un, quand on me dit Marseille, qui va nous parler de l'OM. C'est extraordinaire. Moi, j'ai trouvé déjà en Afrique du Sud. On parlait un petit peu français. Je viens de France, oui, Marseille. Ah, Olympique de Marseille, ah, Papin. Bon, à l'époque, c'était Papin. C'est fou, ce club bénéficie d'une aura internationale, alors qu'il n'a pas gagné des tonnes de titres. Il a gagné qu'une Coupe d'Europe en 93 par rapport au Real Madrid, à Barcelone, tout ça, au Bayern. Mais il a une aura internationale phénoménale parce que c'est un mythe. C'est un club où il se passe toujours quelque chose. Dès qu'on arrive vers une trêve, on sait qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer dans la semaine, soit un éclat du président, soit un truc avec les supporters, soit un truc avec un joueur. On peut jamais relâcher son attention, on est obligé d'être toujours à l'affût, parce qu'avec l'OM, c'est jamais terminé. C'est jamais terminé. Quand on le croit mort, il ressuscite. Quand on le croit en haut, il tombe. C'est toujours ça, c'est toujours la passion autour. Il y a toujours quelque chose. Et voilà, c'est la vie de l'OM avec ses gros coups, ses coups d'éclat. Qui aurait mis le moindre penny sur l'OM à Liverpool? L'OM, c'est un coup à ruiner les bookmakers là-bas sur place, parce que personne ne voyait l'OM gagner à Liverpool. Ils ont gagné là-bas. Même la finale de la Coupe d'Europe en 93. En 91, ils étaient favoris. Ils ont perdu bêtement. 93, en 3 minutes, ils auraient pu perdre 2-0. Et puis, ils ramènent la Coupe d'Europe. C'est une équipe très particulière. D'ailleurs, pas tous les joueurs arrivent à supporter la pression. La pression, ce n'est pas celle du Vélodrome, c'est la pression quotidienne, parce qu'ils ne peuvent plus acheter leur pain comme les autres, ils ne peuvent plus sortir au bar ou aller simplement dans la rue. Ils sont immédiatement entourés par des gens qui viennent leur parler en permanence de l'OM, de l'OM, de l'OM, de l'OM. Je croisais au début, à son arrivée à Marseille, Ribéry, qui allait faire ses courses dans une grande surface. Mais je me suis dit, je lui ai dit, tu ne pourras pas venir pendant longtemps. Il m'a dit, pourquoi? Et après, il m'a dit, je comprends ce que tu m'as dit. Parce qu'il n'arrivait plus à faire un mètre dans un supermarché. Tout le monde voulait lui faire signer des autographes. Tout le monde voulait lui donner un tape dans le dos. Alors, 10 000 tapes dans le dos et 5 000 signatures par jour, ça doit commencer à faire l'eau, je suppose, bien que ce soit la rançon dans la gloire. Mais c'est tout ça, l'OM. C'est fait de passion. Des fois, on aimerait que ce soit un peu plus fait de football, parce que finalement, des fois, on s'emmerde royalement au Vélodrome, c'est mon expression, mais c'est vrai. On attend qu'ils retrouvent un peu un jeu digne de leur statut et digne de leur aura. Bon, on attend que ça vienne, mais il n'y a plus ce jeu qui a enflammé le stade. Et puis, le stade Vélodrome est plus couvert. Il faudrait qu'il soit couvert à nouveau pour qu'il y ait une ambiance comme avant, comme autant de Scoblar, Manusson, qui sont venus fêter les 35 ans de leur doublé. Ils étaient là, les anciens, et là, moi j'ai connu ça, quand on mangeait encore les spaghettis sous le tableau d'affichage du Virage Nord, et c'est cette passion-là, elle y est toujours un peu, mais c'est un peu stéréotypé. Il manque un petit peu quelque chose. Je crois que ce quelque chose qui manque, ça doit venir du terrain. Et pour l'instant, le terrain, c'est pas folichon. Marseille aime ronronner autour de l'OM. C'est quand les soirs de victoire de l'OM, eh bien, tout le monde est content un peu partout, comme dit mon confrère, ça commence à refaire le match un peu partout. Mais ça, c'est les Marseillais qui l'ont inventé. Moi, quand j'allais au stade, que j'étais tout petit, je rentrais d'ailleurs gratuitement, puisqu'on était accompagné par un adulte. Il s'agissait de s'inventer un papa ou un tonton. À chaque match, on rentrait avec. Et après le match, ça finissait, parce qu'à l'époque, on jouait en diurne. Quand le match était terminé, jusqu'à ce que la nuit tombe, il y avait deux ou trois groupes de gens, de personnes dans le stade, qui refaisaient le match, qui analysaient tout. C'est-à-dire, c'était comme des véritables entraîneurs. Et il y avait là un débat fabuleux sur chaque joueur, sur le jeu mené. Nous, on était gosses, on se glissait là-dedans, on n'ouvrait pas d'ailleurs, parce qu'on n'avait pas le droit de donner notre opinion. Mais il y avait là des débats de très haut niveau que certains spécialistes devraient nous prendre en exemple, parce que là, il était dit des trucs extrêmement sensés sur comment jouer au football, sur le fond de jeu, sur les qualités techniques des uns et des autres. Et les joueurs qui sortaient indemnes de ces petites chapelles devenir rapidement des stars, des idoles, comme l'ont été Anderson, Ben Barek, Josip Skoblar, Jean-Pierre Papin. Au début, quand il est arrivé, on lui criait « JPP, j'en peux plus » parce qu'il manquait le stade quand il tirait au début. Mais à force de travail, il est devenu le premier buteur, devenu Waddle. Ainsi de suite, comme peut-être le deviendra Cissé, sait-on jamais, parce que bon, il est encore en devenir pour l'instant à ce niveau-là, mais peut-être que ça peut arriver du jour au lendemain, que ça devienne un héros ici à Marseille.
Et cette possible intronisation de Cissé héros marseillais, c'est d'ailleurs tout le mal que l'on souhaite à Djibril. Jean-Paul Delhomme la vivra désormais dans la peau d'un retraité, un amoureux de la vie et des gens, qui a signé son tout dernier papier sans regret, justement parce que la prochaine page de sa vie s'annonce passionnante.
J'ai des petits-enfants à qui il faut quand même que je raconte un peu l'histoire de l'OM s'ils veulent la connaître. Et j'ai encore des trucs à découvrir avec mon épouse légitime et préférée que j'ai un peu abandonné depuis 30 ans, notamment en ce qui concerne les congés. Vous savez, nous, dans les carrés d'action sportive, les week-ends, on ne sait pas ce que c'est. Les congés, comme les autres, on ne sait pas ce que c'est. Bon, j'ai un peu négligé tout ça par la force des choses, par ce métier qui est fabuleux. Mais à un moment donné, il faut aussi savoir rendre aux autres ce qu'ils nous ont permis de réaliser. Et donc, je pars normalement. Et puis, je resterai jamais trop loin. On ne peut pas s'éloigner comme ça d'un coup d'une vie. C'est une vie. Alors bon, je resterai un peu aux abords. Et puis, je ferai autre chose. Et puis, on me verra de temps en temps au vélodrome. De temps en temps, je pourrai m'exprimer sur l'OM aussi. Et puis aussi dans la Marseillaise, parce que je ne vais pas quand même... je vais pas renier tout ce que j'ai fait, pas tourner le dos complètement à tout ce que j'ai fait. On ne s'en va pas comme ça d'une vie. Ce n'est pas possible.
Et vous restez à Marseille?
Et je reste à Marseille, plus précisément à Aubagne où j'habite. Voilà, au pied du Gard Laban, où je pourrais aller un peu dans les sentiers tranquillement avec toute ma petite famille, tous mes amis, parce que je m'en suis fait pas mal en 40 ans et je pense qu'il y a encore quelques petits coups à partager, à boire et à manger et essayer de vivre jusqu'au bout un petit pot de miel.
Allez, bon vent à Jean-Paul Delhomme, plein de bonnes choses à lui dans sa nouvelle vie de retraité du journalisme. À bientôt, sans doute au Stade Vélodrome, et à bientôt pour un nouvel épisode de Tchatchcast. D'ici là, prenez soin de vous, faites de beaux bébés, vive Delhomme et vive Marseille.
Marseille, Marseille.